Tout d'abord, le journal, les grands titres de ce 25 février. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte à l'unanimité une résolution de cessez-le-feu d'un mois en Syrie pour une pause humanitaire. En Australie, les candidats pour le leadership du Parti national se présentent et font campagne avant le vote de demain matin à Canberra. La clôture des JO d'hiver à Pyeongchang, c'est dimanche. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution de cessez-le-feu d'un mois en Syrie. Analyse de Marie Bourreau pour RFI.
Effectivement, la pression a été maximale sur la Russie, qui est l'allié des Syriens au sein de ce Conseil de sécurité, pour aboutir à ce vote positif et même à ce consensus qui n'était pas gagné d'avance. Je rappelle que ça fait trois jours que le Conseil de sécurité négocie cette trêve. Alors, le texte prévoit donc une cessation des hostilités d'un mois qui doit permettre l'arrivée de l'aide humanitaire et les évacuations des blessés. C'est une réponse minimale aux tragédies des Syriens, a convenu l'ambassadeur français François Delattre, qui a pris la parole il y a quelques minutes et qui assure qu'il ne peut s'agir que d'une première étape. Des tractations avaient eu lieu une bonne partie de cette journée pour trouver un compromis. Il porte sur le langage qui stipule quand cette trêve doit démarrer. Les diplomates se sont mis d'accord pour qu'elle débute sans délai en retirant la mention initiale des 72 heures. La Russie a promis de ne pas en faire une interprétation subjective. Mais vous le pressentez, le prochain défi, ce sera effectivement que cette trêve soit appliquée sur le terrain par le régime syrien. L'ambassadrice américaine Nikki Haley a appelé à lui donner sa chance. À n'en pas douter, a-t-elle dit, elle sera mise à l'épreuve, cette trêve, mais il faut qu'elle soit activement appliquée. C'est la seule manière de restaurer la crédibilité de ce conseil. Nous le devons aux Syriens à qui nous avons fait défaut, a-t-elle dit, et il est essentiel que cette trêve soit appliquée. L'ambassadeur français, lui, a aussi regretté ce sursaut tardif du Conseil de sécurité, mais il a espéré que cette trêve puisse être utilisée comme un levier pour briser la spirale négative en Syrie et relancer des négociations pour une solution politique.
C'était l'analyse de Marie Bourreau pour RFI depuis le siège des Nations Unies. Le Premier ministre australien Malcolm Turnbull estime que sa visite à Washington a été un succès après ses rencontres avec le président américain, avec des responsables de l'armée américaine et des chefs d'entreprise et plus de 40 gouverneurs américains. On écoute Malcolm Turnbull.
Our goal was to broaden and deepen our enduring relationship with the United States, our great alliance, to build on 100 years of mateship for 100 more. We've received a very warm welcome from the President and First Lady Melania Trump, and we thank them for that. Very productive meetings, very frank and productive meetings.
Malcolm Turnbull qui rentre en Australie demain. Et en Australie, les retombées de la saga de Barnaby Joyce, l'ancien chef du Parti national et l'ancien Premier ministre adjoint. Eh bien, un nouveau sondage Sky News, Richtel, montre que la coalition gouvernementale perd des points avec l'opposition qui mène 54% à 46%. Le Premier ministre préféré reste Malcolm Turnbull avec 53% de soutien contre 47% pour Bill Shorten. Jason Clare, député du Parti travailliste, estime que le changement de leader du Parti national n'empêchera pas Barnaby Joyce de commenter l'actualité depuis le backbench.
Whoever they elect tomorrow, that person can expect to get undermined by Barnaby Joyce. He goes back to the backbench, but just like Tony Abbott, you can expect him to fester and agitate and try and derail the government from there.
Voilà le travailliste Jason Clare. La bataille pour le leadership du Parti national et un nouveau chef sera choisi demain matin. Le député George Christensen du Parti national demande de mettre fin à la coalition avec le Parti libéral pour permettre à son parti de mieux représenter les régions rurales en Australie. Le ministre de l'Éducation, Simon Birmingham, du Parti libéral, n'est pas d'accord. Il est sur Sky News.
Well, George says lots of things, but I am confident that the National Party overall understands that the best way to have a say in government is to be at the table of government. to make sure that they are in the cabinet room as the decisions are being made, to influence those decisions. And that's exactly what will continue to occur with a new deputy prime minister to be sworn in tomorrow.
Voilà, c'était Simon Birmingham, le ministre de l'Éducation. David Gillespie, un des candidats pour devenir chef du Parti national, estime qu'il travaillera bien avec Malcolm Turnbull. Et en lice pour ce poste, le ministre Michael McCormack du Parti national. Darren Chester, un des membres influents du Parti national, soutient Michael McCormack. Le Parti Australian Conservatives lance officiellement ce dimanche leur campagne pour les élections du 17 mars prochain en Australie-Méridionale. Le parti présente des projets pour réduire le coût de l'énergie dans les maisons. Le Labour a présenté un projet de 2 milliards de dollars pour financer la construction de nouvelles routes et d'un nouveau port sur la Eyre Peninsula. Le Parti libéral promet de booster les finances pour permettre aux enfants des écoles primaires de jouer plus de sport. On écoute Corey Wingard, le porte-parole de l'opposition sur les sports.
It's an additional $12 million above what's already being spent, but we think that's $12 million really, really well spent.
Voilà, le porte-parole de l'opposition sur les sports en Australie méridionale. En Afghanistan, la série d'attentats se poursuit avec le dernier en date devant le quartier général des services de renseignement qui a fait 25 morts au moins et plus de 20 blessés. Reportage Sonia Ghezali pour Radio France Internationale.
Le kamikaze à pied en costume cravate a réussi à passer le barrage de police devant l'entrée du siège des services de renseignement afghans de la capitale. C'est un jeune agent de la Direction nationale de la sécurité qui a arrêté l'insurgé, qui a alors déclenché sa ceinture d'explosifs. La photo de profil du jeune héros, Mathula, âgé d'une vingtaine d'années, la barbe soignée, les cheveux enduits de gel coiffés en arrière, les yeux verts tournés vers l'objectif, est largement partagée sur les réseaux sociaux. L'attaque a eu lieu près du quartier diplomatique de Kaboul, causant la mort de 3 personnes, en blessant au moins 5 autres. À Farah, province frontalière de l'Iran, dans l'ouest du pays, un commando taliban a lancé l'assaut contre la base militaire à Balabulouk au milieu de la nuit, tuant plus de 18 soldats. Dans la province du Helmand, les talibans ont visé un bureau des services de renseignement et une autre base militaire, utilisant dans un cas une voiture piégée et dans l'autre un Humvee, un véhicule militaire bourré d'explosifs, que des soldats afghans ont réussi à faire exploser à distance grâce à un tir de lance-roquettes. Ces attentats interviennent quelques jours avant la conférence de Kaboul, grande réunion régionale sur la paix en Afghanistan.
Sonia Ghezali pour RFI. Le Premier ministre israélien salue la décision des États-Unis de transférer leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem en mai prochain pour coïncider avec le 70e anniversaire de l'indépendance d'Israël. Le président Donald Trump a décidé de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Benjamin Netanyahu estime que c'est un grand moment pour l'histoire de son pays.
President Trump's decision to move the American embassy to Jerusalem will make our Independence Day celebrations even happier. Thank you, President Trump, for your leadership.
Voilà le Premier ministre israélien. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau déclare que l'avenir de l'Inde est entre les mains des jeunes du pays. Il a fait cette déclaration lors d'un discours devant 5000 étudiants dans le nouveau stade Indira Gandhi à New Delhi.
You cannot build a strong economy unless you are also protecting the environment that underpins it, and you cannot protect the environment unless you are creating technological means and opportunities to feed one's family and grow their opportunities while protecting the environment.
Voilà le Premier ministre canadien. Le gouverneur de la Floride, Rick Scott, demande à faire voter une loi pour renforcer les conditions d'accès aux armes à feu pour les jeunes et pour les déséquilibrés de son État. Précision de Anissa El Jabri pour RFI.
Trois propositions comme trois ruptures avec le credo républicain qui a toujours résonné en Floride. Terminer les achats d'armes pour les moins de 21 ans, non à la proposition du président d'armer les professeurs, mais oui à plus de dépenses. 500 millions de dollars, un peu plus de 400 millions d'euros pour protéger les écoles, c'est la somme que le gouverneur s'est dit prêt à débourser. Et si ce besoin de financement signifie que nous ne pourrons pas baisser les impôts cette année, ainsi soit-il, a dit chancelier Rick Scott. D'ici le 9 mars et le vote sur ce plan, le gouverneur va trouver sur son chemin une adversaire de taille. Elle s'appelle Marion Hammer. C'est la première femme élue présidente fédérale de la NRA, le lobby américain des armes à feu qui tient la Fédération de Floride d'une main de fer. Pour celle qui a 79 ans se promène toujours avec un pistolet dans son sac à main, c'est simple, ses propositions sont de la poudre aux yeux politique. Un républicain contre la NRA, c'est le duel inédit qui s'annonce pour les élections de mi-mandat aux électeurs de tranchée le 6 novembre prochain.
Anissa El Jabri pour RFI. En France, avec la première visite du président français Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture, où il a voulu rassurer les agriculteurs, aussi des débats houleux avec certains d'entre eux mécontents du futur traité de libre-échange entre l'Union européenne et le marché commun d'Amérique du Sud. Reportage Thomas Trotto et Julien Chavanne pour RFI.
Il est arrivé avant l'ouverture du salon et il est reparti après le départ du public. Emmanuel Macron a voulu se montrer à l'écoute des agriculteurs aujourd'hui. Il a pris le temps d'aller à leur rencontre avec des échanges parfois tendus et particulièrement ce matin. Le chef de l'État a été sifflé par un groupe de céréaliers. Il est allé au contact sans cacher son agacement. Un peu plus tard, il a minimisé ce face-à-face musclé.
Il n'y en a pas tant que ça et les gens cachés qui sifflaient, je suis allé devant eux, ils ont arrêté de siffler et on s'est expliqué. Moi, je vais toujours expliquer la politique que je mène et j'ai vu personne qui m'a sifflé à côté. J'ai cassé les parcours et les codes pour aller au-devant d'eux et sans arrêter de siffler, on s'est expliqué et je crois qu'ils ont compris.
Après les sifflets, Emmanuel Macron a eu droit à des échanges beaucoup plus apaisés cet après-midi. Mais le malaise au sein du monde agricole s'est fait quasiment sentir à chaque rencontre. En fin de journée, le président a été interpellé par des jeunes agriculteurs opposés à la fin du glyphosate, un herbicide qui sera interdit d'ici 3 ans. Là, comme sur le juste prix avec la grande distribution ou l'accord commercial avec l'Amérique du Sud, le président a dû se justifier, défendre ses réformes et son futur projet de loi, surtout rassurer ou en tout cas essayer de le faire. Alors s'il n'a pas convaincu tout le monde, il sera au moins allé au contact d'un secteur en plein doute.
Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie, Perth maximal de 29 degrés, Adélaïde 25, Melbourne 19, Hobart 17, Canberra 23, Sydney 26, Brisbane 32, Cairns 31, Darwin 32 et à Alice Springs maximal de 34 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte à l'unanimité une résolution de cessez-le-feu d'un mois en Syrie pour une pause humanitaire. En Australie, les candidats pour le leadership du Parti national se présentent et font campagne avant le vote de demain matin à Canberra.